L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
C'est l'heure du LEM Sport, notre rendez-vous mensuel dédié au sport sur Transistor. Nous sommes avec Fred en studio. Bonjour Fred.
Bonjour.
Alors qui est notre invité ce mois-ci ?
Eh bien ce mois-ci on accueille Maël Sico, un athlète finistérien.
Il est avec nous ?
Oui, il est avec nous en direct là.
Ouais, bonjour.
Bonjour Maël.
Merci pour l'invitation.
Eh bien de rien, avec plaisir au contraire. Alors du coup, bah Maël, moi je te propose peut-être de faire un petit portrait rapide pour que les auditeurs aient situé bien qui tu es, et puis après on engage le dialogue, d'accord ?
Ouais, pas de souci.
Très bien. Alors, donc Maël Sico, donc tu as environ 30 ans, tu es athlète et duathlète breton, tu es attaché à ta Bretagne, tu es né sur Rennes, tu vis actuellement à Brest, tu es responsable d'affaires chez Axima qui intervient dans le domaine du génie climatique au niveau professionnel, tu es issu d'une famille sportive avec un père athlète, tu es licencié pour le cyclisme à l'AC Gouesnou, au Rennes Triathlon, également en athlétisme du côté de Auray. Tu touches à toutes les disciplines, cross-country, course sur route, piste, duathlon, triathlon, et t'aspires à te battre avec les meilleurs sportifs régionaux et nationaux en duathlon. Alors côté palmarès, cet hiver, je crois que tu as été champion de Finistère de cross-country et vice-champion de Bretagne. Vice-champion de Bretagne en duathlon également à Châteaulin le week-end dernier. Et si on prend des références pour que ça parle au plus grand nombre, en course sur route, par exemple, quand tu te mets à courir, tu fais un 10 km en 29 minutes, un peu moins d'1h04 sur un semi-marathon, 21 km, 2h16 pour un marathon. Et en préparant l'émission, d'ailleurs, Pierre-Yves, tu me disais que, en fait, il va plus vite en courant que toi à vélo. Bon, ça, c'était pour la petite plaisanterie.
Tu l'as mis dans le conducteur.
Alors, Maël, qu'est-ce qui te fait courir ? Qu'est-ce qui te fait courir ?
Qu'est-ce qui me fait courir ? Alors, je vais juste apporter une petite correction. Je suis licencié au Stade Brestois Athlétisme depuis l'an dernier. Depuis mon arrivée sur Brest. Et fier de l'être. Donc, assez fier de porter au plus haut les couleurs du maillot du Stade Brestois. Parce qu'il n'y a pas que le foot à Brest, même si le foot et le hand prennent une grande partie du paysage local.
Et donc, ouais, du coup, toi, alors tu as choisi comme sport la course à pied. Comment c'est venu ? Peut-être tu peux en parler.
Oh, c'est une très grande question. Pourquoi je cours ? C'est un peu instinctif déjà, hein, parce que pour l'homme, c'est le moyen le plus rapide de se déplacer sans moyen matériel. Et parce que tout simplement, c'est une pure passion et j'ai baigné dedans. Dès le plus jeune âge, avec un père marathonien à très bon niveau régional, voire national à l'époque. Il courait 2h20 et mon père était charpentier menuisier. Donc, la semaine, il ne s'entraînait pas forcément énormément en termes d'intensité. Il faisait beaucoup de footing, en fait, tout simplement. Il allait au travail, il repartait en courant. Et du coup, pour faire ses intensités, il profitait des courses locales qui étaient encore plus populaires dans les années 90 jusqu'à 2000-2010. Beaucoup de courses, beaucoup de 10 km, 5 km, 15 km, marathon, les week-ends. Et donc, j'ai baigné dans ce milieu un peu de la course hors stade dès le plus jeune âge. Donc, c'est aussi pour moi la suite logique des choses, quoi.
Très bien. Et par exemple, toi, on peut dire que tu es sportif de haut niveau, mais tu n'es pas professionnel. Alors, est-ce que c'est un choix ? Et on peut voir que, par exemple, je crois que c'est Devan Christian, qui est également dans le Finistère, qui lui a fait le choix de passer professionnel pour pouvoir se consacrer entièrement à son sport. Alors, pour toi, est-ce que c'est un choix ? Est-ce que tu as déjà envisagé cette possibilité, par exemple ?
Tu tapes un peu dans le mille, parce que c'est un peu le sujet, mon interrogation de ces derniers temps, en fait. Moi, j'ai pas eu la chance ou je sais pas si c'est forcément une chance, mais j'ai jamais été très fort en jeune. Disons que je m'entraînais quand même bien. J'ai toujours été licencié dans un club d'athlétisme, mais en jeune, je me suis jamais, par exemple, qualifié rien qu'au championnat de France de cross. Et j'ai quand même continué par passion l'entraînement parce que voilà, j'ai réussi à inclure ça dans mon quotidien professionnel, à passer le cap des études. Puis ça a pris une part de plus en plus importante. J'ai fait du triathlon, donc j'ai augmenté un volume d'entraînement et de fil en aiguille, j'ai continué de progresser jusqu'à arriver mes premiers championnats de France. Ça doit être 2017, les championnats de France élite, donc côtoyer le plus haut niveau sur la piste. Et puis maintenant, j'arrive au niveau des records de Bretagne, pas loin en tout cas, donc tout en continuant de progresser et en vieillissant, mais bon. c'est peut-être comme le vin, avec l'âge, on se bonifie. Donc c'est le sujet du moment, oui, parce que depuis que je suis arrivé sur Brest, je structure mon entraînement, mon quotidien et surtout les à côté. Et donc, j'ai besoin de plus en plus de disponibilité et je me pose des questions sur mon avenir professionnel. Alors aujourd'hui, j'ai fait le choix de passer à 80%, ce depuis le 1er février. Donc, j'ai deux après-midi de libre qui me laissent du temps, pas forcément pour m'entraîner plus, mais pour optimiser la récupération et les à côté. Et je ne peux pas aller plus dans ce sens, puisque après, c'est des risques financiers. Et pour l'instant, je n'ai pas les moyens pour assurer une carrière professionnelle à 100% derrière.
Oui, Maël, tu parlais du Stade Brestois Athlétisme, c'est bien ça?
Oui.
Et c'est quelque chose qui est relié de près ou de loin avec le Stade Brestois ou 29, quoi,
Non.
Non, d'accord, non, okay, c'est non, un truc totalement, pour qu'on soit clair, quoi.
Non.
Non, bon, en fait, c'est l'originalité à Brest. Tous les clubs s'appellent le Stade Brestois, comme ça, c'est plus simple.
Ouais.
Alors, pour évoluer à ce niveau, ça demande vraiment un gros travail. On en parlait justement, les charges d'entraînement et les à côté. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, pour toi qui travailles à côté, c'est quoi une journée type pour Maël?
Pour Maël, une journée type, c'est assez variable. Mais en gros, il faut savoir, hein, sur l'année, ça fait quelques années, je tourne autour de 800 heures d'entraînement. Donc ça va être course à pied, vélo, parce que je fais du duathlon, et musculation depuis 3 ans. Une journée type à Brest, où j'ai la chance de ne pas être obligé de m'entraîner le matin, comme j'avais un peu l'occasion avant. Donc je commence le travail à 8h. À midi, j'ai 1h30 de midi, donc j'ai le temps d'aller courir. Je vais courir sur la pause du midi. Après, je reprends le travail et je mange en même temps devant l'ordinateur. Et à 17h, je finis ma journée de travail. Et là, ensuite, j'enchaîne avec une deuxième séance. Donc, c'est souvent soit du vélo, soit un deuxième footing. Plus de récupération. Depuis que je m'entraîne le midi, j'ai tendance à privilégier les intensités le midi pour pouvoir mieux récupérer le soir et être moins, tout simplement moins explosé le soir, avoir un peu moins mal aux jambes le soir et pouvoir mettre de la récupération le soir. Donc voilà. Et le soir, je fais à manger, je surveille un peu mon alimentation, disons que je mange des produits frais, locaux et variés. Et voilà, et j'essaie de me coucher tôt avant 23h au lit pour pouvoir être d'attaque le lendemain, parce que la récup, ça devient un facteur hyper important à ce niveau-là.
Alors ouais, c'est vrai que pour faire tout ce boulot-là, est-ce qu'il faut s'accompagner d'un coach après? Est-ce qu'il faut avoir quelqu'un à côté qui aide un petit peu de ce côté-là?
Alors oui, j'ai une structure d'entraînement, c'est-à-dire que j'ai un coach qui est Thomas Postic, hein, qui est l'entraîneur moi, de mon club de Rennes Triathlon, qui structure mes entraînements aussi en fonction de mes disponibilités et de ma fatigue. Donc de ce côté-là, ensuite j'ai l'accompagnement médical à Brest Santé Sport, où j'ai tout un pôle de kiné ostéo qui font aussi bien le préventif que le curatif, c'est-à-dire les petits bobos, les petites blessures, voilà, dès que j'ai une petite gêne, je vais les voir. Et le préventif, ça va être surtout le renforcement musculaire pour éviter de se blesser et gagner en efficacité de course.
Très bien. Et est-ce que si on suit un petit peu pour les gens, ça peut parler pour certains, il y a des réseaux comme Strava qui permettent de voir un petit peu ce que font les autres sportifs. On voit que tu cours beaucoup sur Brest ou tu fais du vélo sur Brest, mais est-ce que tu t'entraînes également sous des latitudes un peu plus chaudes pour pouvoir supporter? Parce que c'est pas facile, on imagine bien des sports outdoor comme ça. Et ben, quand on est à Brest, on voit l'hiver qu'on a passé, c'est humide, pas toujours facile. Donc ça aussi, c'est des composantes qui sont pas évidentes à gérer, j'imagine.
Ah, pas du tout, c'est pas évident à gérer. À l'altitude un peu plus chaude, bien sûr, je descends souvent à Châteaulin sur le canal pour aller courir à plat et à l'abri du vent ou des voitures. Blague à part, je vais aussi en stage d'entraînement. Alors c'est assez variable et ça dépend aussi de mes disponibilités de pouvoir poser des vacances, mais je suis allé l'an dernier, j'ai fait l'expérience d'aller au Kenya. Ça, c'était une expérience humaine aussi incroyable, découvrir un autre mode de vie, un autre pays et un peu le berceau de la course à pied.
Ouais, ça faisait partie des questions que j'avais un petit peu en tête aussi, effectivement, parce que c'est un peu la Mecque de la course à pied là-bas. C'était à quel... où ça, au Kenya du coup?
À Iten. Iten, okay. C'est la ville connue et reconnue pour être le berceau et le centre d'entraînement de tous les Kenyans. Et c'est là où ils ont fait un business touristique des athlètes, où, essentiellement des gens qui sont là que pour courir, et courir, manger, dormir, s'entraîner, que ce soit l'amateur comme l'élite internationale, les recordman du monde, du marathon, ils sont là-bas.
Et justement, alors, parce que bon, on disait ça, tu es amateur, mais tu t'entraînes presque comme un pro aujourd'hui. Comment tu regardes l'évolution du sport professionnel, notamment dans le fond et le demi-fond, avec toutes ces centres d'entraînement qui se développent au Kenya, et on voit qu'il y a aussi mondialisation dans la course à pied. Tu as un regard particulier, toi, sur éventuellement ce que ça génère en termes positifs et de retombées, mais également peut-être des aspects plus négatifs où on peut voir qu'il y a quand même, tout n'est pas toujours très sain dans l'univers du demi-fond.
Alors le positif déjà, c'est que le running, c'est un sport qui est à la mode, mais c'est surtout bien parce que ça permet, comme tout mouvement à la mode, il y a beaucoup de gens à s'y mettre et c'est très bien pour la santé publique d'une manière générale, donc ça c'est une bonne chose. Les gens prennent goût à l'effort, goût au sport, donc moi je trouve que c'est déjà une super chose. Ensuite, à plus petite échelle, je veux dire, sur le haut niveau français et même breton, on voit qu'il y a une énorme émulation. Il en atteste le niveau des marathoniens français. Aujourd'hui, on peut se targuer d'être une des meilleures nations mondiales derrière les pays nord-africains. Donc forcément, ça entraîne des choses. Les gens se tirent vers le haut. Il y a des exemples comme Julien Wenders, Jimmy Gressier récemment, qui montrent un peu l'exemple aux jeunes. Et les jeunes ont envie de s'investir de plus en plus dans ce sport. Et donc, ça, c'est une bonne chose. Parce que ça fait bien longtemps qu'il n'y a pas eu autant de Français à ce niveau-là. Donc on peut en être fier. Après, oui, il y a aussi des aspects négatifs. Notamment le dopage. Voilà. En France, on n'est pas impacté, mais dans le monde, et surtout dans les pays africains, voilà, c'est un peu la loi de celui qui fera la grosse performance pour en vivre. Mais quand on va là-bas, on comprend aussi le quotidien de ces gens, et on peut presque comprendre pourquoi ils en arrivent à ce genre de pratique, quoi.
Oui, parce qu'on peut peut-être préciser, mais c'est vrai que le Kenya, c'est un pays où on sait qu'il n'est pas très riche, et des gens qui ont un très très haut niveau de course à pied, qui battraient beaucoup de Français, il y en a plein, et en fait, ils peuvent être tentés d'aller, effectivement, ou même être utilisés par peut-être des promoteurs, mais qui les amènent faire des courses pour gagner de l'argent, mais au risque de leur santé, et
Ça va jusqu'à être récupéré par des États-nations aussi, il y a beaucoup de pays qui s'intéressent à récupérer des coureurs issus du Kenya aussi.
Ah c'est ça, ouais. des Qataris, enfin voilà, des agents un peu
frauduleux,
des Qataris, voilà. Ouais. Oui. C'est un peu les travers de la pratique. Hein. Dès qu'il y a du sport, dès qu'il y a de l'argent dans le sport, il y a forcément des dérives aussi, quoi.
Moi, je voulais un petit peu revenir sur tes objectifs, tes envies aussi, parce que tu l'as expliqué en début d'interview, c'est un entraînement quotidien, midi, soir, c'est un investissement hyper lourd, mais pour quelle finalité? Parce que ça peut paraître complètement dingue pour quelqu'un d'extérieur entre le partage de ta passion et de ton travail, quoi. Comment faire? Quel est l'objectif, in fine, quoi?
Alors, moi, je dis toujours quand même, ma priorité, c'est le sport plaisir. C'est-à-dire que j'ai vachement de plaisir dans ce que je fais dans mon quotidien. Maintenant, le plaisir, faut pas se le cacher, il est dans la performance aussi. Je ne cesse de progresser, donc forcément, ça, j'y trouve énormément de plaisir. Maintenant, on va pas se le cacher. Moi, j'arrive à un niveau qui est tel que on n'est pas loin du meilleur niveau français. Si j'arrive à optimiser encore plus mon entraînement, mes pics de forme, comme on dit, je peux peut-être un jour, sur une bonne course, aller chercher que ce soit un podium au niveau national, comme on a vu le faire sur les championnats de France de cross par deux Bretons, dont une Finistérienne, Laetitia Blenven. Et puis après, pourquoi pas une sélection en équipe de France. Mais je me voile pas la face, parce que les sélections en équipe de France, c'est aussi souvent très aléatoire, parce qu'il faut être dans les petits papiers de la fédération, il faut être présent le jour J au bon moment, il faut justifier d'un certain niveau, il faut parfois même avoir le coach qui connaît les gens de la fédé. Donc c'est pas du tout une finalité pour moi, un objectif en soi, mais moi, mon objectif, c'est plutôt d'arriver à ce niveau-là et de voir jusqu'où je peux pousser la machine, en gros.
Parce que c'est quand même assez étonnant par rapport à ce que tu nous dis, parce que pour le coup, sur les sports d'endurance, il n'y a qu'une seule chose qui parle, c'est le chrono, quoi. Pour le marathon, par exemple, toi, tu te situes comment? Et les portes d'entrée en sélection, c'est combien, par exemple?
Alors moi, je dis toujours, pour citer un exemple qui parle à tout le monde, moi, je suis au niveau des meilleures femmes au niveau mondial. Donc, je suis encore très loin du niveau international français. Aujourd'hui, on a plus d'une dizaine de Français sous les 2h10, c'est-à-dire 6 minutes. Mais 6 minutes, à mon allure, c'est énorme au kilomètre. C'est plus de 10 secondes au kilomètre. Maintenant, moi, j'aspire quand même à réaliser un chrono. Là, actuellement, je sais que j'aimerais bien aller sur un 2h12 dans un moyen terme, c'est-à-dire de sous les 2-3 ans, quoi. Mais ça ne mènera pas du tout à une sélection, puisque au jour d'aujourd'hui, les minima pour les Jeux Olympiques sont 2h08-10, donc c'est très loin.
Et pour qu'on se représente bien, peut-être tous, ça fait courir à quelle vitesse sur 42 km ?
Plus de 19 km/h.
Bon, voilà, ça donne un petit peu un aperçu de ce que ça peut demander en termes de potentiel et de travail. Il y a d'autres athlètes finistériens, on en parlait tout à l'heure, parce qu'il y a les JO qui arrivent. On a, une Agathe Guillemot, par exemple, qui actuellement a battu un record de France sur piste. Est-ce que toi, tu suis aussi de près les autres athlètes du Finistère, comme ça, qui sont de haut niveau et pour certains aux JO?
Ah, bien sûr, il y a tout ce qui est... Enfin, on se connaît de plus ou moins loin et forcément on suit les résultats via les différents réseaux. Et Agathe Guillemot, là, je vais pas dire que c'est fait parce que rien n'est fait, mais vu la saison indoor hivernale qu'elle nous a sortie, elle va défendre le maillot de l'équipe de France, je l'espère pour elle, au plus haut niveau européen, déjà à Rome au mois de juin. Et elle peut largement espérer jouer un podium. Et ça, ce serait quelque chose de très beau pour l'athlète breton, parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de breton à ce niveau-là, et aux Jeux Olympiques aussi. Donc ça, je l'espère pour elle. Ensuite, il y a Donovan Chrétien, qui est pas loin du niveau des sélections. Il y a Simon Bédard de Vannes, qui vient de battre le record de Bretagne ce week-end sur le 10 000 mètres. Il vient de réaliser 27 minutes 46 secondes, je crois, 47 secondes, donc sous 28 minutes au 10 km sur piste. C'est monstrueux. C'est la 15e meilleure performance française de tous les temps. Y a un tel niveau, oui, c'est sûr. On suit ça. Et moi, j'espère que ces gens-là iront porter le plus haut niveau breton, le drapeau breton au plus haut niveau international et européen.
Ouais, j'avais une petite question aussi, tant qu'on est aussi à parler de l'athlétisme et du fond en général. Tu as quand même... c'est pas la plus belle période de l'athlète français en général, mais pour les JO de Paris, il y a quand même moyen d'espérer quelques petites surprises.
Surprise sûrement, parce que des Jeux Olympiques, ça reste un événement sportif à part, une pression à part, des courses à part. Maintenant, il faut quand même être lucide sur le niveau français d'une manière générale en athlétisme comparé au niveau mondial. En fait, hormis au marathon, on est inexistant, donc. Il faudra un exploit pour qu'on ait une médaille, quoi. Surtout que Kevin Mayer, qui est une des seules chances de médaille
au décathlon, ouais.
Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'il est très fragile physiquement.
Moi, je pense que du coup, ça donne envie de suivre un peu plus le Finistérien et Breton dans l'été prochain. Toi, peut-être pour finir un petit peu cette interview, est-ce que tu as des objectifs précis après le championnat de France de Bretagne du duathlon qui a eu lieu là à Châteaulin?
Alors j'ai le championnat de France de duathlon là le 6 avril, donc dans 2 semaines et demie.
Ça va se passer où?
C'est à Mâcon.
Alors rappelons-le, le duathlon c'est courir et faire du vélo.
C'est ça, un enchaînement de course à pied, vélo et de recourse à pied. C'est une discipline parallèle au triathlon. Ça fait partie de la même fédération. Donc il y a la saison de duathlon où, avec le club de Rennes, je match au plus haut niveau français en division 1. c'est le championnat le plus relevé au niveau international. Et ensuite, après, moi, j'ai les échéances sur piste avec notamment les interclubs, avec le club du Stade Brestois. Et j'espère ensuite être performant sur piste. Mais là, je me laisse un peu de marge de manœuvre parce que je vais voir comment j'aurai récupéré de tout cet enchaînement marathon, cross, duathlon pour pouvoir aller viser des chronos sur la piste.
Eh ben merci beaucoup Maël d'avoir passé du temps avec nous pour parler de ta passion qui va un peu plus au-delà de la passion quand même.
Voilà, c'est du sérieux quand même.
Oui. Merci beaucoup.
Merci Maël. À vous.
Qu'est-ce qu'on te souhaite pour le futur là, dans l'immédiat?
Continuer de progresser, prendre du plaisir, et puis advienne que pourra sur les performances, mais.
Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Maël. Merci. Alors, le LEM Sport, c'est presque terminé, mais il nous faut rejoindre Hugo pour la météo, qui va nous parler aujourd'hui de rugby et du 15 de France.
Pierre-Yves, Fred, dans cette météo du mois de mars, on va s'appliquer à souligner, à se féliciter du retour en costaud du 15 de France durant cette victoire haletante lors du crunch face à l'Angleterre. Il en est des soirs, où même en étant derrière votre écran, devant votre téléviseur ou votre petit ordinateur, eh bien, vous comprenez malgré tout que vous allez assister à une soirée de légende. Une soirée de spectacle, une soirée de combat, dans laquelle les Bleus vont continuer de retrouver leur harmonie collective et la solidité qui a bâti leur succès des années précédentes. Face à l'adversaire héréditaire du 15 de la Rose, une équipe vexée, une équipe meurtrie de l'humiliation subie dans leur stade à Twickenham, où la bande à Dupont avait infligé un revers de près de 50 points à leur adversaire l'an passé, résultat là encore tout à fait historique. Pour ce renversant France-Angleterre, cette fois-ci du cru 2024, c'est la ferveur provinciale qui accueille cette année les matchs du tournoi des Six Nations de l'équipe de France pour cause de travaux olympiques dans l'enceinte du Stade de France de Saint-Denis. Les tricolores doivent éviter un fiasco historiquement unique, celui de ne remporter aucune rencontre à domicile. À l'entrée des joueurs, l'atmosphère lyonnaise est incandescente. Le soutien derrière cette équipe n'est plus à démontrer depuis désormais plus de 4 ans, et la prise de fonction du sélectionneur Fabien Galthié. En outre, l'intense succès en terre galloise de la semaine précédente a redonné plus que vie dans tous les secteurs de jeu et en dehors à un groupe touché, voire abattu, depuis le traumatisme de l'élimination en quart de finale de la Coupe du Monde en octobre dernier, de notre mondial, d'un petit point, d'un ballon contré, d'un non-avant non signalé contre le vainqueur sud-africain. Fabien Galthié a voulu faire table rase de cette désillusion, parfois sans donner d'explication rationnelle, sur des choix ayant suscité une unanime interrogation de la part des observateurs. La page de cet échec est décrite comme nettement tournée et l'homme à la paire de lunettes qui fait fantasmer tout l'hexagone reconduit ses hommes de confiance pour une nouvelle échéance, comme pour signifier que tout cela n'était en réalité qu'une question de détail, que les mentales résilients des grands champions n'était en toutes circonstances, dans la perspective technique, tactique et également dans l'état d'esprit. Mais malheureusement, pour ouvrir ce tournoi, les coéquipiers de Aldrit sont tombés d'encore plus haut. Le stade Vélodrome bouillant n'a rien pu faire. Les Irlandais, également convalescents, après une élimination au même stade de la Coupe du Monde, ont surclassé les Français sans ménagement. Très très vite d'ailleurs, les Français étaient réduits à 14. 8 jours plus tard, en Écosse, Biel Biarray arrache sans French Flair un succès miraculeux qui n'a tenu qu'à un fil d'arbitrage vidéo n'ayant pas pu valider un essai écossais. S'en est suivi un improbable match nul concédé à Lille contre une Italie traditionnellement plus faible, mais ce n'était pas le cas cette année et la squadra Azzurra aurait même dû arracher la victoire si le ballon n'était pas tombé du tir lors de la dernière pénalité. Alors, le nouveau staff français et Galthié se retrouvent complètement dos au mur. Le faire corps, sans sauter à l'élastique, comme aurait dit Bachung, va-t-il suffire pour conclure ce Six Nations dignement? Il est si décevant jusqu'alors, ce Six Nations. Les individualités habituellement au diapason semblent disparues, perdues, voire déchues pour certaines d'entre elles. Alors, doivent-elles justement laisser leur place à une génération de moins de 20 ans, pleine de promesses, qui, elle, a réussi à être championne du monde l'été dernier? D'où viennent les lacunes en touche depuis que le nouveau staff est là? D'où vient le manque de créativité offensivement? Et enfin, faut-il faire fi dans l'analyse de ces contre-performances, des absences certainement préjudiciables, des géniales Dupont et Ntamack en chapeau. À Cardiff, face au pays de Galles, un splendide vent de fraîcheur majestueux souffle Nolan Le Garec à la Chistera do Brésil, fait sa première titularisation en tant que demi de mêlée, notamment par un essai. La puissance d'Emmanuel Meafou, tant attendue, redonne hargne et vigueur au jeu des Français. Le jeune de Porter dynamise tout ce qu'il faut dans les derniers mètres et bonifie les cadres. À l'instar de Ficou et Antonio, ils sont de retour au firmament. Offensivement, les tricolores sont enfin au niveau escompté, même si tout est loin de rimer à la perfection. C'est donc en tombant, puis en se relevant, que Ramos et les autres se présentent pour le défi à part qu'est le crunch pour le match singulier qui se France-Angleterre. L'entame est flamboyant, et si le jeu ne se fait pas régulièrement en première main, que la stratégie de dépossession porte de nouveau ses fruits, Ramos, encore lui, est toujours aussi juste au pied. Le Garec et Meafou confirment leur potentiel hors du commun aperçu le week-end précédent. François Kroos révèle des qualités de vitesse totalement insoupçonnées. La confiance est de retour aux affaires. C'est le sentiment qui nous habite, en tout cas à l'aube de l'issue du premier acte. Mais le 15 de la Rose marque un essai déterminant et récidive par deux fois au retour des vestiaires. Aïe. L'orgueil des hommes de Borswick et le parfum des grands matchs les remettent en scène. De nouveau, le doute s'installe dans nos têtes à toutes et à tous. Les vieux démons ressurgissent, tel un insatiable sentiment de déjà-vu, ô combien déstabilisant et surtout frustrant. Sauf que non, cela ne se passera pas comme prévu. Les fantômes des Springboks sont chassés, telle la fougue de l'impressionnant Léo Barret, élu homme du match. La pénalité qui ne passe pas et l'essai concédé dans la foulée n'y change rien. Le pied de Thomas Ramos, magique maître à jouer, change le destin, change notre destin à 50 mètres et 50 secondes de l'issue de ce qui sera comme depuis 8 ans dans nos antres fatales à un quelconque swing low, swing chariot. Sorry good game, la France est vainqueur, la France est deuxième du tournoi, la France bat l'Angleterre. C'est donc d'un petit point que le bonheur semble revenir pour le 15 de France. Si cette équipe a toujours été valeureuse et que sa manière de laver le linge sale en famille semble porter ses fruits, c'est la fraîcheur et le dynamisme apporté par les nouveaux éléments qui ont bonifié les historiques. Les Six Nations 2024 se terminent comme à l'accoutumée depuis l'ère Galtier en tant que dauphin. Et à 3 ans de 2027, il semble prématuré de se déclarer candidat à quoi que ce soit, mais ce programme commun, fait de résilience et d'enthousiasme, pourrait de nouveau convaincre les électeurs en espérant rassembler durant les élections intermédiaires que seront les tournois des Six Nations 2025 et 2026, sans oublier les tournées d'automne et estivales.
Merci Hugo pour ce gros point météo rugby. Météo qui conclut comme à son habitude le LEM Sport de ce mois de mars. Merci Fred, merci Maël Sico, ton invité cette semaine. Et prochain rendez-vous du LEM Sport dans un mois.
LEM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.